5, 4, 3, 2, 1.
Radio Cactus.
Bonjour à tous les auditeurs, vous êtes avec Daniel et Esteban et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir dans nos studios l'humoriste Vincent Veillon. Bonjour Monsieur Veillon, comment allez-vous ?
Bonjour Daniel, bonjour Esteban, bonjour à tous. Je vais très bien, je suis très heureux d'être avec vous.
C'est la première fois que vous vous livrez à un tel exercice parce que d'habitude c'est vous qui jouez le rôle de journaliste.
Oui, j'ai averti l'équipe en arrivant au studio, je suis souvent assez nul quand il s'agit de répondre aux questions plutôt que de les poser. Ça m'est déjà arrivé quelques fois et j'espère que je serai à la hauteur.
Alors, qui entre les deux Vincent, qui est le plus sérieux ?
Je pense que c'est Vincent Cuchol qui est un peu plus sérieux et en fait c'est pas ce qu'on imagine puisqu'on le voit tout le temps faire le clown et moi être ouais. Sérieux et on aime bien jouer avec cette ambiguïté. C'est vrai qu'on a des personnalités un peu différentes dans la vraie vie que sur scène et je dirais que le plus sérieux pour tout ce qui est aussi les déclarations d'impôts et ce genre de choses, c'est lui. Moi je suis un petit peu dissipé et un peu plus chien fou disons au niveau du caractère.
Ouais, parce qu'il est toujours déguisé etc. Monsieur.
Bah ouais, lui il se lâche sur scène il se décharge et puis une fois qu'il arrive dans la vie, ben, il est beaucoup plus chill.
Et est-ce qu'on peut en avoir marre de Vincent Cuchol ou pas ?
Oui, bien sûr. Mais ça m'arrive très souvent. Mais après, heureusement, ça passe. Et puis, on retombe amoureux l'un de l'autre. On a vraiment une relation de couple, hein, même si on n'est pas vraiment et qu'on ne fait pas l'amour ensemble. Mais on est vraiment deux amis, collègues, camarades depuis maintenant 10 ans. C'est la 10e année. On s'est rencontrés en 2009, à Paléo d'ailleurs. Et dans ces 10 ans, de collaboration, évidemment qu'on s'est engueulé maintes et maintes fois, qu'on a à plusieurs reprises failli se séparer, mais c'est pas encore à l'ordre du jour, ça se passe bien, donc tant mieux.
Et quelles sont ses qualités ou ses défauts ?
Ouf, alors là, il faudrait avoir 2 heures d'émission, il a énormément de qualités, énormément de défauts, mais je dirais que les valeurs qu'on partage et qu'on retrouve chez nous deux, c'est l'envie de travailler, envie de créer des choses, et puis l'exigence, et puis l'endurance. C'est-à-dire qu'on est les deux gros bosseurs. Ça peut être pris comme une qualité ou comme un défaut si vous parlez à nos copines ou à nos femmes, qui du coup nous voient peut-être des fois pas autant qu'elles voudraient. Mais ça, c'est une valeur et une qualité qu'on partage, ouais. C'est l'envie de bosser.
D'accord,
okay. Ouais. Dans le métier que vous faites, y a-t-il un risque ? Ras-le-bol, peut-on avoir marre ? Comment luttez-vous contre cela ?
En fait, le moteur principal, c'est le plaisir. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit avec Vincent que le jour où il n'y a plus de plaisir, on arrête de faire ça parce que ça ne sert à rien. Parce que comment transmettre du plaisir aux gens si on n'en a pas nous-mêmes ? Donc, je dirais que des fois, on en a marre. On est surtout fatigué, en fait. Des fois, on a l'impression de plus avoir assez de jus parce qu'il faut dire que contrairement à des travaux manuels, là, c'est notre tête qui fonctionne beaucoup, qui chauffe souvent et qui doit être très, très régulièrement mise à rude épreuve pour trouver des idées, trouver des solutions, faire rire. C'est pas facile de faire rire. Donc, il y a une fatigue parfois à ce niveau-là. Le plaisir, je pense qu'il revient assez naturellement aussi dans la mesure où ce qu'on fait est toujours nourri par l'actualité. Donc à ce niveau-là, notre source, disons, d'inspiration, elle est tout le temps renouvelée. Donc il suffit de faire le truc avec le pouce sur le téléphone pour faire défiler les informations. Et donc à ce niveau-là, le risque de saturer, il est moins important parce qu'on fait pas des créations originales de toutes pièces où on écrit des histoires pour enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, où on devrait aller chercher un peu partout de l'inspiration. Ça aide un petit peu à pas serrer comme un moteur de vélomoteur que vous n'avez pas. Vous n'avez plus du tout de vélomoteur aujourd'hui.
J'en ai un.
Ah ouais, bah voilà, c'est comme le moteur. Ça.
Et pourquoi depuis 120 secondes et 120 minutes aussi, c'est tout le temps Vincent Cuchol qui joue l'invité et vous le journaliste ?
Alors c'est pas tout le temps, hein. Des fois, je peux mettre une perruque avec des dreads et puis parler un petit peu comme un rastaman. Ça m'est arrivé, ouais, c'est ça. Et puis dans les sketchs qu'on produit, moi je commence aussi à jouer pas mal. On a dans le spectacle qu'on a tourné là pendant une année, Le Fric, on était vraiment les deux à faire des personnages. Mais c'est vrai qu'en fait, naturellement, ça a commencé comme ça, pas parce qu'on l'avait décidé en tant que deux comédiens qui jouent des personnages, mais parce que moi, à la base, je suis pas comédien, j'ai pas fait d'école comme Vincent de théâtre. Et puis à toute base, bah, j'ai commencé comme vous à faire de la radio, et c'est mon premier métier en fait, c'est de recevoir des gens, d'animer, d'être animateur, c'est ça mon premier travail. Donc quand Vincent est arrivé et qu'on a eu cette idée de faire les 120 secondes, bah, c'était assez logique que moi, en plus je produisais la matinale, donc j'étais vraiment à l'antenne à la matinale, donc Vincent venait en personnage. Donc tout ça s'est fait assez naturellement en fait, donc il n'y a aucune frustration, ou enfin, tout, voilà, les choses sont assez bien comme ça quoi.
Vous venez de lancer votre spectacle, Le Fric. Quel bilan tirez-vous de cette...
Alors, on ne vient pas de le lancer, hein. Il faut bien vous renseigner sur vos informations. On a commencé le 8 février 2018, donc ça fait une année. Et on vient de le terminer, en fait.
Oui, le terminer.
Ah, c'est ça que tu voulais dire Ah oui, excuse-moi, autant pour moi. Quelle est la question?
Quel bilan tirez-vous de cette expérience théâtrale?
Super bilan, parce qu'on a, on a fait quasiment autant de dates que le premier spectacle qu'on avait fait sur la Suisse. Et on a fait je sais plus combien, mais genre une centaine de dates, 105 spectacles. Donc on a traversé la Suisse romande, on a rencontré plein de gens. Et puis au niveau du spectacle lui-même, c'est génial de pouvoir jouer un spectacle plus de 100 fois, parce que évidemment qu'il évolue, qu'il est vivant, donc on corrige tout le temps des trucs. Et puis surtout on rigole, on a ri du premier au dernier sur scène. Vraiment, on a eu des fous rires, on a fait des impros. Comme je disais, moi j'ai pu vraiment faire autre chose que le mec en blanc qui pose des questions. J'ai vraiment pu faire des personnages, donc c'était aussi à ce niveau-là pour moi vraiment très riche comme expérience. Et puis comme à la fin de chaque tournée, on est un peu, on se dit qu'on n'en fera plus jamais, parce que on a l'impression qu'on a fait le tour de toutes nos idées. Mais on verra pour un prochain. En tout cas, celui-là, le bilan, il est très positif, très content. Et puis on a même l'occasion de faire le dernier spectacle sur la grande scène de Paléo le samedi soir cette année. Alors ce sera un spectacle un peu adapté, évidemment, parce qu'il ne peut pas durer 2 heures. Il va faire 1h30, puis si possible avec un peu plus de musique. Enfin, ce sera une forme un peu spéciale, mais ce sera une super belle manière de conclure cette aventure.
Et du coup, vous pensez pouvoir tourner dans un film plus tard?
Je sais pas pourquoi. Oui, enfin, en fait, la question du long métrage, du film, je pense que si on le fait un jour, et il y a deux trois idées, il y a deux trois projets en cours, on irait pas tourner dans un film, mais on produirait nous notre film, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait en fait. On s'est dit, tiens, on pourrait faire de la radio, faisons de la radio. La télé, faisons de la télé. On aime bien garder un peu notre petit jouet, disons. Et si les gens nous font confiance et nous offrent la possibilité de nous amuser, eh ben, c'est comme ça qu'on trouverait cool de le faire. Donc le film, s'il y en a un, on le réalisera nous, et puis on jouera dedans, ouais, je pense.
Vous savez déjà ce serait sur quel sujet?
Alors nous avons des informations que nous ne pouvons pas vous divulguer ici. Non, mais en fait, en gros, on a une idée cool qui nous plaît pour l'instant. Elle va encore évoluer, parce que pour faire un film, ça prend évidemment énormément de temps pour trouver les sous, pour tout organiser. Et donc on a une idée. Je peux pas vous en parler comme maintenant, parce que si on change d'avis après, on aura l'air d'être des pommes. Donc, mais en gros, on a une histoire assez cool qu'on a envie de raconter, qui se passe pas dans notre époque, mais un peu dans le passé, en Suisse romande.
Okay.
Voilà pour le teasing.
Quel est votre meilleur souvenir de toute votre carrière?
Ça, c'est, alors vous saurez que c'est les pires questions à poser, hein. De choisir un souvenir, de choisir une anecdote, de choisir son père ou sa mère, c'est des questions très difficiles. J'en ai plein en fait. Les souvenirs, on en a avec ce genre de, avec notre job, on vit tout le temps des choses incroyables. On a énormément de chance de pouvoir aller rencontrer des gens à l'armée, de pouvoir aller en montagne dans un hélico filmer la patrouille des glaciers, d'aller rencontrer un croque-mort, donc on est tout le temps en lien avec la Suisse romande et les gens et la vraie vie. Donc on a tout le temps des souvenirs qu'on se remplit dans la tête. Donc c'est trop difficile d'en choisir un. Vraiment, c'est trop difficile.
Ok.
Et d'où viennent toutes vos idées?
Alors, de notre tête, et puis de notre inspiration, puis des discussions qu'on a avec les gens qui participent à l'émission et à tout ce qu'on fait. On est maintenant, on n'est plus que les deux, hein. On a vraiment plein de gens qui nous entourent et avec qui on rigole bien. Donc les idées, elles viennent de, elles viennent de là et elles viennent aussi de l'urgence, parce qu'on a un truc aussi qui est, je pense, constitutif du moteur, c'est qu'on est obligé de faire. On peut pas dire ah, tranquille, ce devoir je le ferai demain, je vais jouer à PS4 toute la soirée ce soir et puis demain hein. Non, on est obligé de livrer des émissions de télé et de radio. En l'occurrence ce matin, même sur la première, tous les vendredis matin, on fait une interview sur 20 secondes à 8h-10, ben voilà, on n'a pas le choix. On doit trouver des idées, on doit se mettre ensemble et puis trouver des solutions. Donc d'où ça vient? Ça vient du stress et puis beaucoup de l'actualité.
Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui aimeraient faire le même métier que vous?
Alors il faut d'abord définir mon métier.
Ouais, humoriste. Alors, comédien.
Moi je me considère pas comme un humoriste ni comme un comédien, parce qu'un comédien c'est un mec qui a fait une formation de comédien et puis qui joue beaucoup. Un humoriste c'est un mec qui fait un peu des blagues sur les petits travers de la vie et puis sur les petites choses du quotidien machin, et qui fait du stand-up ou autre chose. Donc c'est un peu compliqué de définir vraiment, je sais jamais quoi mettre dans la case quand je remplis un formulaire. Donc je peux pas vraiment me prononcer par rapport à l'un de ces métiers. En revanche, ce que je peux peut-être dire de mon expérience professionnelle, c'est de... et comme conseil, entre guillemets, même si j'ai 32 ans, hein, je suis pas non plus un vieux sage, mais c'est d'essayer de faire des choses et de vous intéresser à faire des choses le plus possible. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, on me dit souvent, t'as fait quoi comme formation pour faire de la radio, de la télé et tout? En fait, j'ai fait aucune formation. J'ai suivi des études de graphiste, j'ai fait le gymnase et puis après des études de graphiste. Et donc aujourd'hui, je suis pas du tout graphiste. Donc, en fait, tout mon parcours, il a été constitué de rencontres et de moments où je me suis dit non mais j'ose pas faire ça. Puis ah mais oui, en fait, si je veux oser, je vais essayer en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai commencé chez moi, au plan sur B dans mon petit village du Chablais vaudois, à faire de la radio sur Internet avec un ordinateur. Et puis j'amusais mes copains du gymnase à cette époque-là quand j'avais 16 ans. Après je me suis dit bah tiens, pourquoi j'irais pas faire de la vraie radio? Donc j'ai écrit un mail, je suis allé sur le site de radiochablais.ch qui est la radio locale de ma région. J'ai trouvé le nom du chef d'antenne. J'ai dit hey, alors bonjour, j'aimerais bien faire de la radio, je peux? Il m'a dit ouais bah venez. Heureusement qu'il m'a dit ça, sinon je serais pas là pour en parler avec vous. Mais il m'a dit ok, viens. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la radio, à assez vite proposer une émission, à être du coup un peu responsable d'une petite tranche horaire, et puis ainsi de suite, faire les top 50 du week-end, acquérir de l'expérience en essayant, en faisant. Et puis après, c'est comme ça que de fil en aiguille, il y a un poste qui s'est ouvert à Couleur 3 auquel j'ai postulé, que ça a marché. Puis voilà. Mais tout ça pour dire que c'était pas du tout lié à une formation, mais à une envie de faire des choses. Donc ça que je pourrais vous encourager à faire, c'est soyez curieux, soyez motivés, et puis testez des choses dans n'importe quel domaine que ce soit. Hein.
Ouais, faire ce qu'on a envie.
Faire ce que vous avez envie, mais c'est hyper difficile de trouver ce que vous avez envie de faire, hein, parce que souvent ça fait tu veux faire quoi plus tard, ah, je sais pas, tu sais, tranquille, on a le temps. Bah voilà, idéalement il faut essayer de trouver le truc qui vous fait kiffer, et c'est pas forcément d'être célèbre ou de faire des millions de vues sur YouTube, hein, ça peut être dans d'autres domaines, mais moi j'adore les gens qui font un job qui leur plaît. Je trouve hyper triste de voir des gens qui vont au boulot en étant déprimés, ou qui rentrent du boulot en étant encore plus déprimés. Et donc ça, c'est vraiment le conseil que je donne à tous les jeunes qui nous écoutent sur Radio Cactus, c'est de trouver votre truc et de le suivre. C'est un peu cucu peut-être de dire ça, non? Mais
ouais.
Mais c'est vrai, et c'est pas facile.
Mais c'est à quel âge que vous avez fait votre première émission?
J'ai commencé à la radio à 17 ans, à Radio Chablais, quand j'avais, je sais plus en quelle année c'était, mais à 17 ans.
Vous avez quitté les gymnases pour faire ça ou pas?
Non, je faisais ça le week-end, le week-end, et après quand j'ai commencé à faire mes études de graphisme à l'école, je faisais l'émission, enfin je faisais le jeudi soir mon émission en même temps que les études, et d'ailleurs à la fin de mes études, de mon bachelor, en 2005, le poste à Couleur 3 s'est ouvert, et du coup j'ai commencé à travailler là-bas, mais je devais faire mon diplôme en même temps, donc je suis allé voir mon directeur de l'époque qui s'appelait Pierre Keller, qui s'appelle toujours Pierre Keller d'ailleurs, il est toujours là, et puis il m'avait dit « Ok, tu peux le faire, mais t'as intérêt à bosser et à pas faire chier ». Il a toujours un franc-parler aussi comme ça, et du coup j'ai fait ma dernière année de bachelor en même temps que ma première année à Couleur 3, donc je travaillais un peu à deux à 200% pendant une année. Donc j'ai pas arrêté tout et là et ça aussi c'est un truc peut-être on peut dire faire attention à pas vouloir à tout claquer pour essayer un truc sans vraiment l'avoir essayé. Je pense que ça peut être dangereux. Donc tester un petit peu les trucs comme ça à gauche à droite et puis ouais. Ça peut être bien.
Mais ça vous plaisait pas le métier graphiste ?
En fait, oui. D'ailleurs, j'ai commencé tout petit à dessiner. C'est un peu aussi ça. C'est un des grands trucs de ma vie, c'est dessiner puis créer des choses. Et aujourd'hui, en fait, je l'applique toujours. Tout ce que j'ai appris à l'école, je me tourne beaucoup plus vers la réalisation maintenant que sur le jeu. Donc, j'adore écrire des histoires et puis les réaliser en images. Donc, tout le bagage, un peu. J'aime bien dire qu'à l'école, donc l'école où j'ai suivi ma formation, on m'a aiguisé les yeux. Donc c'est pas juste apprendre à faire un logo quoi, c'est aussi savoir tiens comment cadrer la lumière et tout, et ça c'est quelque chose que je pratique aujourd'hui. Là je sors pour venir vous voir, je sors d'un bon de montage, je suis en train de monter une séquence qu'on va diffuser dans la prochaine émission. C'est vraiment ça que j'adore faire, donc l'image est encore très très importante pour moi.
Ok,
d'accord. Yann Marguet, il a récemment monté son one man show. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait voir Vincent Veillon faire un one man show aussi?
Très bonne question. Je sais pas. Je dirais que le spectacle de Yann Marguet, auquel on participe un peu, on l'aide un petit peu, puisqu'on a de l'expérience dans la production de spectacles, donc on l'aide à ce niveau-là. Il est vachement bien. Il est vachement mieux que un one man show stand-up, quoi, hein, où le mec arrive avec son micro, puis comme je disais avant, il se met à nous raconter des blagues. Même si j'adore les stand-uppers aussi, qu'il y en a des très bons, hein, je suis pas du tout en train de les critiquer, mais c'est vrai que le spectacle de Yann, on s'est vu il y a une semaine et il nous a fait une lecture un peu du l'état du travail actuellement de son spectacle qui est pas encore sorti, hein, qui va commencer je crois au mois de juin. C'est vachement bien parce qu'il raconte plein de choses sur l'existence et sur avec beaucoup d'humour, donc c'était très inspirant. Quand je l'ai vu, je me suis dit ah ouais, tiens, ça donne envie presque de faire ça. Alors maintenant c'est encore abstrait parce qu'il faut toujours trouver une bonne idée. Hein, c'est toujours pareil. On peut se dire ouais, je veux faire un spectacle, mais sur quoi? S'il n'y a pas une bonne idée derrière, ça risque d'être assez nul. Donc je dirais que le jour où j'ai vraiment une idée cool qui me convainc de ah ouais tiens en fait cette idée là, la meilleure manière de la faire c'est tout seul sur scène. Pourquoi pas? Ouais, ça me ferait pas peur en tout cas. Mais encore une fois, le plaisir d'être à deux avec Vincent quand on fait nos bêtises, ça apporte aussi une énergie vachement bien. Donc, mais la vie est encore longue, donc pourquoi pas ?
Okay. Ok. Vous avez les moyens d'en faire un, en tout cas ?
Les moyens financiers ?
Ouais. Non, enfin, les moyens, une équipe derrière.
Mais qui pourrait m'aider à faire quoi ? Mettre en place le...
Ouais,
j'ai pas une équipe à disposition qui m'attend en disant « Allez, vas-y, fais ton spectacle !» Mais c'est vrai qu'on a dans notre réseau, maintenant, des gens, typiquement pour Yann, quand il a dit « Ouais, tiens, j'aimerais bien faire un spectacle », on organise autour une structure pour l'aider. Et ça, ce serait des moyens que je pourrais trouver si j'ai vraiment envie de le faire, je pense, ouais. Enfin, j'espère. Ils vont pas tous lâcher.
Nous allons maintenant laisser la place à un petit intermède musical et on se retrouvera juste après avec Monsieur Vincent Veillon. Tout de suite, on écoute.
Qu'est-ce qu'on écoute ?
Bon Jovi, It's My Life.
Cool. This ain't a song for the broken hearted. When I shout it out loud, it's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever.
C'était Bon Jovi, It's My Life. Et on se retrouve pour la deuxième partie avec Monsieur Vincent Veillon.
Bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour.
Alors, selon les thèmes que vous abordez dans vos sketchs, il y a un risque de choquer une partie de votre public. Avez-vous déjà reçu des critiques négatives? Comment réagissez-vous?
Surtout depuis qu'on fait de la télévision. Avant, à la radio, on avait très peu de mails incendiaires de gens pas contents. Là, avec la télévision, c'est un peu plus fréquent parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de monde qui nous voit. Souvent, c'est des retours qui sont des gens choqués par quelque chose qu'on a dit ou par des images qu'on a montrées. On essaie chaque fois de répondre poliment et de remercier les gens de nous regarder. Et puis, mais disons, on a rarement été dans des cas vraiment extrêmes où on était vraiment attaquable et où les plaintes se sont poursuivies et ont débouché sur de vraies plaintes. Donc, on trouve bien quand même de pas de choquer, mais d'interroger les gens et puis de leur faire se poser des questions peut-être sur eux-mêmes, sur ce qui les entoure et puis sur notre petite Suisse romande et sur le monde. Enfin, sans non plus vouloir être des grands donneurs de leçons, mais c'est plutôt bien en fait quand les gens réagissent, parce que ça veut dire qu'ils ont été touchés par quelque chose. Et c'est ce qu'on essaie de faire.
Et dans votre clip L'égalité avec Monsieur Vincent Cuchoul, vous avez eu beaucoup de critiques négatives?
Non, on a eu pour ce clip-là plutôt le contraire. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit trop beau et tout. Puis il a été, c'est une des séquences qui a été les plus partagées de tout ce qu'on fait ensemble. Maintenant, il y a des millions de vues sur YouTube, sur Facebook, etc. Mais c'est vrai qu'on s'est dit un peu, ça fait l'apologie de la bœuf. Et puis, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on sent vraiment le deuxième degré? Et au départ, on s'est dit oui, puisqu'on est déguisé, et puis qu'on fait les cons, donc on s'est dit oui. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pu peut-être prendre ça vraiment au premier degré en disant, bah, en fait, ils font vraiment la pub pour la bœuf, quoi. Ouais. Et j'ai envie de leur dire que si Vincent ou moi fumons un pétard, on s'écroule en 10 secondes. Donc, vraiment, c'est vraiment pas du premier degré, quoi.
Vous faites rire les gens, mais est-ce que ça vous arrive des fois de tellement vous êtes drôle de vous faire rire jusqu'à...
Rarement. Vincent, des fois, il a ce truc, quand il écrit, des fois, on le voit devant son écran, puis il écrit un truc, puis il fait... il se marre tout seul. Puis on se dit, mais en fait, c'est plutôt bon signe s'il a réussi à se faire rire tout seul. Oui, des fois, en me voyant, je pense que dans certains trucs qu'on a fait, je peux me faire rire, mais c'est toujours c'est un peu comme à la radio quand on entend sa voix pour la première fois. Je pense que ça vous a fait ça. C'est un peu intime. C'est comme si on se mettait tout nu, en fait. Ça m'arrive, mais il fallait pas que ça arrive trop souvent, parce que sinon, ça poser quelques problèmes d'éthique et puis au niveau du narcissisme et puis de l'amour de soi, ça pourrait commencer à devenir un peu dangereux.
De tous vos personnages ainsi que ceux de l'autre Vincent, lequel avez-vous préféré?
Alors, tu n'as pas bien retenu la leçon, je t'ai dit qu'il ne fallait jamais poser des questions sur les trucs préférés, les meilleurs souvenirs, etc. Je plaisante, bien sûr. Je sais pas, ils sont tous différents, ils ont tous des traits de caractère différents. J'ai beaucoup aimé dans le spectacle sur le fric jouer un paysan. C'est une séquence qui marchait assez bien et dont les gens nous parlaient après. Un paysan qui se suicide. Et donc c'était un monologue. C'est toujours un monologue de 10 minutes sur un paysan qui est au bout de sa vie à cause du prix du lait qui veut pas monter. Et ça, c'était dans l'expérience que j'ai d'incarner des personnages, c'est celle qui, pour l'instant, elle était la plus forte pour moi. Ouais.
En gros, vous aimez presque tout.
Oui, enfin, pour créer un personnage, il faut quand même beaucoup de paramètres. On fait pas, enfin, il faut qu'on ait un peu d'imagination, mais aussi de tendresse par rapport à la personne qu'on singe entre guillemets. Donc, c'est toujours un peu réfléchi les personnages. Oui.
Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter?
Alors, mais à quel niveau? Parce que j'en ai plein les anecdotes à raconter. Je peux vous raconter que j'avais à votre âge un copain imaginaire qui s'appelait Jérôme et que j'allais voir des fois dans la montagne. Donc mes parents me prenaient pour un psychopathe. Que je sais pas, qu'on a fait un tournage à la patrouille des glaciers à Zermatt il y a 2 ans et qu'on a été en fait complètement
avec votre groupe, non?
Avec notre groupe.
De rock.
Ah non, ça c'était vraiment pour la patrouille des glaciers et l'armée s'est occupée de nous du début à la fin et on a fait quasiment une nuit blanche complète, quasiment 24 heures de travail, mais encadré par l'armée, donc c'était assez drôle. Je sais pas, il y en a plein des anecdotes, il y en a vraiment plein. Vous auriez dû me dire ça avant, comme ça je me serais préparé, quoi.
Ouais. La plus drôle, alors?
On n'a dit pas la plus drôle, le meilleur, tout ça, les gars, vous écoutez pas ce qu'on dit.
Vincent Veillon, Merci énormément pour votre gentillesse et votre disponibilité.
Merci à vous.
Ce fut pour nous un honneur de vous recevoir ici et nous avons eu un grand plaisir à vous interviewer. Nous espérons que pour vous aussi.
Oui, oui, Daniel et Esteban, merci beaucoup. C'est ça, Daniel et Esteban ?
Oui. Ouais,
bah merci les gars, vous assurez et continuez comme ça, quoi.
Ok.
Merci.
Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait ? On écoute là. Ouais, il faut parler. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc qui arrive ?
Bah maintenant, on écoute...
Ah bah oui, de la musique. Ok. Un petit Damso, un petit... Pas, non,
Ed Sheeran.
Ed Sheeran, oui, c'est autre chose, mais c'est bien aussi.